les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. RM Show et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
Bon voyage tout le monde les amis, ici Roger Montou, c'est en direct de Washington DC, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. On salue nos amis qui sont en train de nous capter à Yopougon en ce moment, c'est en Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan exactement. Ils sont nombreux à écouter RM Show chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Aujourd'hui bien sûr Island Music, un bon week-end à vous qui est en train de nous capter aussi à Niamey au Niger, nombreux à nous capter là-bas. Nous, beaucoup d'amis nous captent chaque jour à Niamey, ça nous fait tellement plaisir. Aujourd'hui dans cette émission, on va continuer avec notre sujet de la semaine, mais on va aussi commencer toucher un peu à notre sujet de la semaine prochaine. La question, c'est quelle place pour la médecine d'urgence en Afrique? Oui, on parlera de ce sujet. On aura sûrement notre invité spécial d'honneur aujourd'hui, connu partout dans le monde, Dr Denis Mukwege, ou comme on l'appelle, l'homme qui repart les femmes. On en parlera d'ici la fin de cette émission. On sera tous ensemble et beaucoup d'autres programmes comme, bien sûr, l'actualité, l'anglais et le sport. DJ, je joue d'abord ce morceau. Nous revenons dans un instant. Island Music. N'oubliez surtout pas de nous appeler ou de nous écrire un mot sur WhatsApp ou Viber au 001 703 350 3731. On décolle. Écoutez, Aram Chou, une émission de Joa Brisson, direct de Washington, la grande capitale de United States of America. Et on dit merci infiniment à nos amis qui sont en train de nous capter en ce moment, même à Pointe-à-Pitre aussi, et à Port-au-Prince, et à Saint-Louis aussi, comme Jules Jean qui nous écrit toujours, Roger, moi, je suis haïtien et je vous capte chaque jour avec ma maman. Merci à vous de rester à l'écoute de cette émission. C'est le week-end, un week-end qui dit week-end, a dit zouk, a dit island music dans cette émission. Et bien sûr, on ne peut pas oublier nos amis de Pointe-Noire et de Brazzaville. À eux qui nous captent chaque jour maintenant entre 20h et 21h temps universel. Et ça sera vraiment Jean-Louis ma fille, ma bonsoir à toi. Et
bonsoir Roger, ça va?
Mais ça va très bien, merci. Je sais pas pourquoi je suis en train de trop tousser aujourd'hui, parce que j'ai fait trop la fête hier avec ta fille Amani.
Mais tu avais le double, donc il y avait la fille et puis il y avait les Washington Capitals qui ont...
Ah oui, les Washington Capitals, d'ailleurs on en parlera avec Georges Léonard Sagnon, c'est une très 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 grosse nouvelle. Mais en tout cas, je disais que c'était ce sujet très important qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Et comme on n'est pas seul, tu sais, je t'ai dit au début de cette émission, c'est toujours un grand plaisir d'avoir Jacques Aristide.
Ah oui, ça c'est vrai.
Je ne sais même plus comment il faut présenter Jacques Aristide. Il y a des gens qu'on ne présente même plus. C'est la marque déposée.
Marque déposée, oui.
Tu vois, nous, il faut présenter, tu dis Roger Muntou des RM Show. Jacques Aristide, tu dis seulement Jacques Aristide.
C'est tout. Ben je ne dis rien, je ne fais qu'apprécier.
Qu'est-ce que tu vas dire?
Ces moments-là, tu sais, autant ne rien dire.
Autant ne rien dire. Exactement. Jacques Aristide, on parle d'un sujet très important. Oui. Quelle place pour la médecine d'urgence en Afrique, hein. La médecine d'urgence, c'est être utile, c'est aider, c'est avoir du sens, c'est compter, c'est tenir debout, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Et les auditeurs et les téléspectateurs qui m'ont écrit pour commenter un peu à ce sujet-là, ils disent, Roger, en tout cas, chez nous ici, la médecine d'urgence, c'est compliqué, c'est pas développé partout. Il y a des coins où c'est vraiment développé, mais il y a des endroits où c'est vraiment pas... ça ne marche pas.
Absolument. Et en fait, tout à l'heure, Roger, tu auras un invité qui va pouvoir parler de ça, une autorité évidemment,
oui, oui,
en la matière.
Oui.
En fait, ce qu'il faudrait peut-être d'abord faire, c'est faire un état des lieux de la médecine d'urgence en Afrique. Quelle est vraiment la situation dans nos pays? Donc, moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait d'abord faire. Et comme ici aux États-Unis, on appelle le 911 et voilà, on a une ambulance qui débarque dans... deux petites minutes, et voilà, on se retrouve à l'hôpital. Donc, il y a un peu de tout ça, mais bon, évidemment, la médecine d'urgence, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, mais c'est important, évidemment, ça a une place prépondérante.
Oui.
Hein? Et donc, en fait, moi, j'aurais aimé écouter tout à l'heure
notre invité. Exactement.
Absolument.
Mettons d'abord tout le monde dans le bain. Il est presque minuit au village de Tchabobo, au Congo, et la petite Lulama, qui vient juste de souffler ses deux bougies, est soudainement prise d'une convulsion fébrile. Hein. Le centre de santé le plus proche est à 15 km et la seule infirmière qui travaille quitte à 16 heures. À 2000 km de là, dans la banlieue de Livingston, dans le sud de la Zambie, la belle Chanda, une adolescente de 16 ans, porteuse d'une grossesse de 34 semaines, se plaint des terribles maux de tête, vertiges et douleurs épigastriques. Elle voudrait se rendre à l'hôpital situé juste à 10 minutes de marche, mais une pluie diluvienne trempe la ville. Aucun de trois ambulances de l'hôpital n'est en état de marche depuis 4 mois. Xulani, un septuagénaire diabétique et d'hypertendu d'Umtata en Afrique du Sud, n'y sentir pas non plus ici aussi, Jacques et Jean-Louis. Sa douleur de poitrine est à son pic, mais son hôpital n'a pas de capacité de thromboliser les patients souffrant d'un infarctus et son transfert vers l'hôpital d'East London traîne en longueur pendant que son myocarde s'éteint au fur et à mesure. Donc, ça, ce sont des cas, Jean-Louis Mafema, avant qu'on puisse introduire notre invité, qui arrivent souvent. Ça, ce sont des exemples des gens qui nous envoient, mais si ça arrive souvent, d'après certains commentaires. Et ça peut être un problème.
Oui, bien sûr, c'est un problème, parce que c'est une question de vie et de mort. Hein. S'il n'y a pas... C'est soit vous avez les services rapides, et là, moins de communiquer avec ces services-là,
oui,
ou vous avez
des centres à proximité,
qui peuvent
amener les gens facilement là-bas, ou bien eux, ils peuvent réagir facilement.
Facilement. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup Jean-Louis Maffema. On va introduire notre invité de ce soir. C'est Dr Denis Mukwege, l'homme qui repart les femmes, qui est un gynécologue congolais réputé et reconnu pour son action humanitaire en République démocratique du Congo, où il dirige l'hôpital Panzi à Bukavu. Le docteur n'est plus à présenter parce qu'il n'est pas nouveau pour VO Afrique. On l'a toujours reçu ici à Voice of America. Le prix d'Olaf Palme 2018 lui a été décerné. En 2009, il a obtenu le prix français de droit de l'homme. Il a aussi été fait chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur. En 2013, il avait été pressenti pour recevoir aussi le prix Nobel de la paix. On en parlera. Mais c'est une autre distinction qui lui a été décernée, le prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits. Le 21 octobre 2014, le prix Charkov de droit de l'homme lui a été attribué parce qu'il est décerné par le Parlement européen. Il est le symbole ici d'une reconnaissance mondiale du travail de cet acteur de premier plan dans la résolution des conflits en Afrique. Il nous rejoint, je pense qu'il est en France ou en Belgique, il va nous dire. Bonsoir monsieur docteur Denis Mukwege, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un grand plaisir, un honneur encore de vous revoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, il y a peut-être des gens qui se souviennent de moi, mais moi, je me souviens de vous.
Un plaisir partagé. Je me souviens très bien de vous, ne vous faites pas de soucis.
Merci beaucoup, docteur. Alors, docteur, parlons un peu de votre séjour en Europe. Qu'est-ce que vous faites en ce moment en Europe, docteur?
J'étais venu célébrer le 30e anniversaire du prix Sakharov, donc c'était une occasion de pouvoir rencontrer les autres lauréats, voir un tout petit peu leurs projets, discuter des projets que nous menons, voilà. Et puis c'était aussi les Development Days ici à l'Union Européenne, donc j'ai pas mal de conférences.
Ouais. Pas mal de conférences, docteur Mukwege. Aujourd'hui, on parle de ce sujet très important. Quelle place pour la médecine d'urgence en Afrique? Je m'en vais poser directement la question de savoir comment, à l'hôpital Panzu, vous faites pour effectivement assurer cette urgence quand vous devez aller aider ou prendre les malades ailleurs. Est-ce que vous avez ce service-là développé à l'hôtel Panzu, pardon?
Effectivement, à l'hôpital de Panzi, nous sommes dans le système de soins de santé primaire, mais nous sommes également un hôpital de référence régional pour les victimes de violences sexuelles. Et à ce titre, nous avons un service d'urgence donc, qui peut bouger à n'importe quel moment, et spécialement lorsque... nous avons affaire à des victimes de violences sexuelles. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut prévenir beaucoup de pathologies si on fait vite. Et lorsqu'on nous appelle, nous avons moins de 72 heures pour réagir. Sinon, après, les kits que nous devons donner pour prévenir le VIH-SIDA, prévenir les infections sexuellement transmissibles et prévenir la grossesse, après 72 heures, c'est trop tard. Donc, nous avons une équipe mobile qui se déplace lorsque nous avons des appels en périphérie.
Docteur, l'Organisation moderne des systèmes de santé en Afrique remonte pour l'essentiel, les années 1920-1930 avec dans les colonies françaises une empreinte très marquée du service de santé. On se rappellera très bien, Jean-Louis, tes parents se rappellent très bien de ce service de santé qui était un peu développé. Au cœur du dispositif, l'hôpital jouait en tout cas un rôle essentiel. Puis autour s'organisait aussi un réseau d'institutions publiques et privées de soins. Qu'en est-il aujourd'hui? Que s'est-il passé exactement? C'est ce que beaucoup de gens veulent savoir. Qu'est-ce qui s'est passé après tout? Les colons sont partis et tout est rentré, dans le désordre. C'est quoi le problème?
En fait, je crois qu'il est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique se porte mal en ce qui concerne l'organisation des soins de santé. Mmh. Et alors que ce qui pourrait être fait, c'était vraiment organiser les soins qui seront pyramidaux, c'est-à-dire qu'au niveau de la base, on a des centres de santé ou des postes de santé. Au niveau intermédiaire, on pouvait avoir des médecins. Et au sommet, on pouvait avoir des services qui sont très spécialisés. Malheureusement, suite aux conflits à répétition, aussi le manque de politique de santé cohérente, mmh. aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les malades dans les villages, souvent, n'ont pas des structures de santé pour les prendre en charge. J'ai suivi à l'introduction, mmh. lorsqu'un enfant convulse, c'est qu'il doit aller à 15 km mmh. pour avoir le premier soin, mmh. effectivement, il risque d'arriver trop tard. Mmh. Je prends l'exemple des femmes enceintes. Mmh. Lorsqu'une femme espérait pouvoir accoucher normalement à son village, mmh. et qu'elle doit faire 15-20 km pour trouver la possibilité de faire une césarienne. Mm. Souvent, c'est trop tard pour les bébés, mais également, ça peut être tard pour même la femme. Mm. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je dois dire que c'est une honte de continuer à opérer les fistules qui sont des communications entre l'appareil génital et l'appareil urinaire, ou l'appareil digestif et l'appareil génital, tout simplement puisque les femmes n'ont pas des soins adéquats quand elles ont besoin de ces soins. Et ceci suppose qu'il faut investir de moyens, être créatif. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque donc de l'information, donc la technologie des communications et d'information très développée. Ouais. Normalement, on devrait avoir la possibilité de pouvoir prendre en charge les malades correctement, ne fût-ce qu'en utilisant les moyens de communication, que nous avons actuellement.
Mmh, merci, docteur. Je ne suis pas seul dans ce studio. Jean-Louis Mafema et Jacques Aristide, que vous connaissez très bien, de Washington Forum est ici. Et c'est toujours un plaisir d'avoir Jacques Aristide ici. Jacques Aristide, vous connaissez très bien le docteur Mukwege. Vous avez eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois aussi. Je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser au docteur.
Absolument, ouais. Roger. Mmh. Un plaisir d'être ici et quel honneur de pouvoir m'adresser au docteur Mukwege. Mmh. Très content, docteur, d'être ici et vous parler. Alors, pour parler justement de ce sujet, la question que j'aurais aimé poser, en fait, tout à l'heure, je parlais un petit peu de ça, peut-être l'état des lieux d'abord de la médecine d'urgence en Afrique. Et puis, en fait, vous parliez de politique tout à l'heure, de nos pouvoirs publics africains. Alors, ces politiques impliquent évidemment, doivent impliquer certainement financement et formation. Alors, parlez-nous de cette situation. Est-ce que cela est pris en compte par nos pouvoirs africains? Est-ce que cela devrait être pris en compte? Et qu'est-ce que tout cela implique, docteur?
Vous savez, donc, quand vous voyez les budgets de santé dans beaucoup de pays, en fait, ce n'est pas une priorité. Mmh. Et pourtant, je crois que nous devrions mettre l'homme au centre, puisque souvent, on pense qu'on peut produire sans l'homme. Il faut avoir un homme en bonne santé, il faut avoir les femmes en bonne santé pour que nos pays puissent être productifs. Et malheureusement, en fait, le budget de santé, c'est toujours un budget qui est dérisoire et donc qui ne permet pas de répondre aux besoins qui sont posés au niveau de la base. Et comme je viens de dire, je crois que la médecine d'urgence, à mon avis, donc les centres de santé, comme on les appelle, ou postes de santé, peu importe, devraient être au moins l'endroit où le malade peut arriver et qu'il peut avoir une orientation. Si son problème ne peut pas se résoudre localement, que la personne qui se trouve dans le centre de santé, l'infirmier ou l'assistant médical, soit en mesure de pouvoir orienter le patient là où il peut avoir les soins par rapport à sa pathologie. Ça, c'est la première chose. Donc, ça suppose qu'il y ait d'abord des personnes formées, ça suppose qu'il y ait des structures, des infrastructures qui sont équipés avec un équipement minimal permettant de pouvoir au moins orienter un diagnostic en disant probablement c'est telle pathologie, je peux la soigner Donc, à ce moment-là, l'infirmier qui est là, il fait l'essentiel et il ne peut pas soigner. À ce moment-là, il s'est transféré. Et c'est là où vous dites la médecine d'urgence. Si, par exemple, un infirmier a un enfant qui convite, il ne sait pas si c'est le paludisme ou c'est une méningite, il ne sait pas faire la ponction lombaire, donc voir l'état du liquide céphalo-rachidien, peut-être qu'il est obligé d'envoyer ces malades à un niveau plus élevé où il y a l'équipement qu'il faut, et là il faut un transport. Si ça doit prendre des heures, probablement que le malade ne va même pas arriver au niveau supérieur. Et ces centres devraient être construits tels que les distances sont calculées pour permettre à ce que, pour une population donnée, qu'il y ait un centre et que lorsqu'il y a un transfert pour un certain nombre de centres de santé qui dépendent donc du niveau supérieur, que la distance puisse permettre à ce que les gens peuvent s'y rendre par ambulance au besoin, et si vraiment il n'y a pas d'ambulance, qu'on trouve d'autres moyens. Et aujourd'hui, j'ai réfléchi d'ailleurs beaucoup sur la communication qu'on peut avoir au niveau des hôpitaux, des références, donc le niveau supérieur. On devrait avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui fait la permanence pour écouter ce qui se passe dans les centres de santé et pouvoir aider. Si on a un médecin qui peut répondre à toutes les questions que posent les infirmiers avant de transférer les malades, on perdrait moins le temps et pouvoir donner des instructions avant le transfert du malade, pouvoir le conditionner pour qu'il puisse arriver à temps. Et aujourd'hui, je trouve que nous avons des téléphones cellulaires, des smartphones que nous utilisons pour beaucoup d'autres choses et pas vraiment pour la chose la plus importante, la santé de nos populations. Et je crois que là, un médecin peut superviser un grand nombre de centres de santé, il est permanent et il peut donner des informations qu'il faut. Et donc, lorsque nous avons le niveau beaucoup plus supérieur, là où, par exemple, bon, ça peut être soit un centre hospitalier universitaire ou un centre où quand même il y a des médecins qui sont beaucoup plus spécialisés, je crois que c'est un niveau qui est plus haut et là, il faut absolument qu'il y ait aussi pas seulement des ambulances, mais vous comprenez que...
Ouais, plus que ça. Plus que les ambulances.
Même déjà, résoudre... Ouais.
Et docteur Roger, si vous me permettez de poser une autre question. Alors, par exemple, en France, on a le SAMU. Ici, on a le numéro d'urgence,
le 911.
À Maurice, chez moi, à l'île Maurice, on a le 999. Ouais. Est-ce qu'il y a des services similaires dans nos pays, en Afrique? Est-ce qu'il faut certainement aller de l'avant avec de telles idées? Il faut mettre en place de tels services d'urgence. Le SAMU en France, c'est le...
Oui, c'est pour expliquer à nos auditeurs aussi.
Voilà, le service d'aide médicale urgente. Donc, est-ce qu'il nous faut avoir des structures similaires en Afrique? Est-il temps, justement, d'en avoir, docteur?
Absolument. Je crois que dans les grandes villes, on peut imaginer des ambulances type SAMI avec un personnel formé, pas seulement des véhicules, puisque parfois, en Afrique, vous trouvez des ambulances, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Une ambulance, c'est un petit hôpital avec un équipement.
Avec tout dedans, ce ne sont pas seulement des véhicules, hein. Ouais.
Voilà, exactement. Ce ne sont pas seulement des véhicules. Et ça, je crois que c'est un système qui peut très, très bien fonctionner dans de grands centres. Malheureusement, dans beaucoup de villes africaines, il n'y a pas de numéro d'urgence. Il n'y a pas un numéro vert lorsqu'il y a urgence à qui il faut appeler. Et deuxièmement, mais il y a des véhicules parfois qui sont des véhicules de transport de malades, mais ce ne sont pas des véritables ambulances. Et ça, je crois que ça fait perdre beaucoup de gens, perdent leur vie dans des accidents ou alors ils sont dans des centres de santé et ils ont besoin d'être déplacés, par exemple avec l'oxygène ou avec une perfusion ou une transfusion, et ils ne peuvent pas avoir ça, et malheureusement ça c'est un véhicule. C'est comme si vous ameniez votre malade dans votre propre véhicule. C'est un système qu'il faut organiser. Mais quoi que, ouais. C'est possible si on y met de moyens qu'il faut.
Et ça, on parlera aussi de ces moyens-là. Docteur, restez là avec nous. On va respirer un peu avec l'anglais. C'est l'anglais qui est prochain. Je ne sais pas si Lionel me dit. Ah, si on est prêt avec l'anglais. Nous revenons dans un instant. Notre invité de ce soir, c'est le docteur Denis Mukwege. Nous revenons dans un instant. L'anglais, c'est tout de suite. Nous revenons dans un instant. Voilà, on continue bien sûr avec l'anglais. L'anglais, c'est avec Michel Joseph. Hello, Michel.
Hello, Roger.
Salut, Roger.
Hello, everyone.
Bonjour, tout le monde.
The word of the day.
Le mot du jour.
Strong. S-T-R-O-N-G.
Fort, solide, puissant.
He's a strong man.
C'est un homme fort.
She's a strong woman.
C'est une femme forte.
It's a strong idea.
C'est une idée puissante.
Give me a strong hand. I need to push this closet.
Prête-moi main forte. J'ai besoin de pousser cette armoire.
You are the strong voice in this movement.
Tu es la voix dominante de ce mouvement.
You are my strong support in this process.
Vous êtes un fort soutien dans ce processus.
Back to you, Roger.
Merci beaucoup, Michel Joseph. Respirons un peu avec la musique et on continue avec notre sujet de la semaine dans un instant.
Invité à ma table, tu connais mes secrets. Des larmes ou bien des rires, me semblait-il, étaient partagés. Mais de tout ça, tu n'avais que faire. Ton but à toi, il était bien clair.
Je souhaite
pas qu'il m'en. Contre mon nuit, tu pouvais subir.
Mais
il est bien
fait qu'il meurt.
Oui, ma confiance, tu as su ravir. Tu savais y mettre du cœur. Ton obsession, tirer profit, tirer profit.
Ton obsession, tirer profit.
Pour la médecine d'urgence en Afrique, c'est notre sujet aujourd'hui, la semaine prochaine. Ne quittez pas notre invité de ce soir, le docteur Denis Mukwege, qui nous rejoint de Bruxelles. On continue avec ce sujet. Vos questions, n'hésitez surtout pas au 001 703 350 3731. Please don't go. On revient dans un instant. Je dis comme d'hab, God bless. Peace Africa.
Et qui toujours atterrit en sûreté avec bonne musique et tout sandal. Roger Mundo, RM Show, sur la voie de l'Amérique. Bienvenue. À part le fait qu'on a ce qu'il y a à toi. En tout cas, RM Show, avec la musique à vous, ça va. À part, la tête d'assister. À part.
Voyo, je te mets la parade de RM Show, Bane.
RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. RM Show, Bane. On décolle.
Hey, hey, hey. This is our show, let's go, ici vos gars. Roger Moutou sur direct de Washington, la voix de l'Amérique, Voice of America. Vous êtes en train de capter RM Show, bien sûr, votre émission que vous suivez chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Et c'est de partout que vous êtes en train de nous suivre, même en live sur notre page Facebook. On vous dit merci infiniment. Quelle place pour la médecine d'urgence en Afrique? C'est notre question de la semaine. On en parle avec Jean-Louis Maffema et bien sûr Jacques Aristide ici dans nos studios. Et notre invité en direct de Bruxelles, qui nous rejoint de Bruxelles, c'est le docteur Denis Mukwege, un monsieur qui n'est plus à présenter, je l'ai dit au début de cette émission. Et c'est le gynécologue congolais réputé et reconnu pour son action humanitaire en République démocratique du Congo, où il dirige l'hôpital Panzi à Bukavu. Et si vous avez vos questions, comme je l'ai dit, n'hésitez surtout pas, écrivez-nous sur WhatsApp ou Viber au 001 703 350 37 31. On redécolle un peu avec ce morceau, cette belle musique, et pendant qu'on attend, et on va lire vos messages en live en direct. Je vous rappelle que pour nous appeler aussi en live en direct, c'est au 001 202 205 26 33, ou alors au 001 202 619 79 25. êtes en train d'écouter Aram Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington, la grande capitale des États-Unis d'Amérique. On vous dit merci infiniment de rester toujours à l'écoute de cette émission et à participer, soit en nous écrivant en live sur notre page Facebook VOA Afrique. Quelle place pour la médecine d'urgence en Afrique? C'est notre question de cette semaine. La médecine d'urgence, on l'a dit au début de cette émission, c'est être utile, aider, avoir du sens, compter, tenir debout presque toute la journée aussi. Ils font beaucoup, beaucoup en tout cas. Et il n'y a personne d'autre qui comprendrait bien ce sujet, en tout cas pas moi, en tout cas pas Jacques Aristide, en tout cas pas Jean-Louis Maffema, mais c'est le docteur Denis Mukwege qui connaît très bien celui qu'on appelle l'homme à qui reparle les femmes. Et toi, tu as même surnommé, Jacques, tu as surnommé le docteur Mukwege ministre de la Santé en Afrique.
Oui,
partout en Afrique.
Vraiment, oui.
Africain
de la santé publique.
Oui. Non, mais c'est vrai,
je crois qu'il mérite ce titre, n'est-ce pas?
Il en prend son temps pour réfléchir sur des solutions à des problèmes. Il est en train de façonner un vrai plan de santé qui sert non seulement à la République démocratique du Congo, mais au reste de l'Afrique, parce que nous avons presque tous les mêmes problèmes.
Les mêmes problèmes.
Et le problème qu'il a soulevé, c'est vraiment c'est d'ordre continental.
Continental. Après d'ailleurs son baccalauréat, il entreprendra aussi des études en médecine au Burundi, où après avoir terminé, il va travailler dans un hôpital chrétien de l'Amena du Sud, Kivu, RD Congo. Le choc alors va se produire lorsqu'il va se rendre compte que l'accouchement difficile des femmes dans les milieux ruraux, car ces femmes sont amenées à l'hôpital à Doudana. Ah oui, à Doudana, à l'hôpital. Et voilà. Et c'est quand le docteur parlait des ambulances, que ce ne sont pas seulement des véhicules. Hein. Donc ces véhicules doivent être vraiment
équipés.
Et vous vous rendez compte que les femmes ont été amenées à l'hôpital à Doudana après avoir saigné à blanc au cours des accouchements difficiles à domicile. Et le docteur Mukwege nous rejoint. J'espère qu'il est encore là. Docteur, est-ce que vous êtes encore là? Allô, docteur.
Oui, je vous dis.
Ah, d'accord, là en haut. Nous savons qu'il fait très tard là-bas chez vous, docteur Mukwege. Encore une fois, hein, vraiment, on apprécie le temps que vous nous accordez en ce moment. Docteur, est-ce que la santé doit être un droit humain?
Absolument. Je pense que la santé, c'est même le premier droit humain qu'on devrait défendre bec et ongle, puisque je crois que c'est la plus grande richesse que nous avons. Et je crois que malheureusement, parfois, on joue avec la santé. Et quand on se rend compte qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, parfois, c'est trop tard. Donc, c'est un droit humain et nous devons absolument le protéger. Nous devons absolument faire en sorte que ça ne soit pas un droit pour certains privilégiés. Ça doit être un droit pour tous, un droit qui est fondamental. Je crois qu'aujourd'hui, comme nous parlons de l'Afrique, que malheureusement, l'Afrique, nous sommes en train simplement faire une discrimination dans la distribution de droits à la santé. Aujourd'hui, je suis, par exemple, très très touché de voir, par exemple, toutes les femmes qui meurent à l'âge jeune, tout simplement, puisque le pouvoir public, et nous tous, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour que ces femmes, ces jeunes femmes puissent vivre, donner la vie et vivre après avoir donné la vie.
Wow. Jean-Louis, je ne sais pas si tu as une question pour Dr Mukwege. Je sais qu'on ne t'a pas passé la chance aussi de poser la question au docteur. Est-ce que tu as une question?
Oui, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'aspect social aujourd'hui vis-à-vis de la santé. Est-ce que vous préférez un système comme un peu en Europe ou au Canada, où c'est vraiment le système de santé, c'est associé au social, tandis que par exemple ici aux États-Unis, c'est plus comme c'est un système capitaliste, on est plus pour avoir les bons soins de santé, il faut avoir de l'argent. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est le système que vous
et qui marcherait peut-être
qui marcherait mieux en Afrique? Oui.
Je crois que d'abord, nous venons de dire que le soin de santé devrait être un droit universel. Donc, tout humain devrait avoir des soins de santé lorsqu'il est malade, lorsqu'il a une souffrance, il devrait être soulagé. Et le moyen existe aujourd'hui. Et donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait une catégorie de personnes qui peuvent souffrir et laisser pour compte et que d'autres puissent bénéficier de soins de santé. Quant au système, je crois que l'Afrique, nous avons besoin, ça c'est mon point de vue, de beaucoup plus de développer un système mutualiste, puisque même en Europe, même aux États-Unis, partout au monde, il n'y a personne qui peut payer les soins de santé avec ses propres revenus. Ça, c'est dans le monde entier. On voit très bien qu'il y a des assurances, là où on peut, par exemple, quand vous parlez des États-Unis, c'est des assurances, mais avec Obamacare, c'était la tendance à assurer tout le monde. Et je crois que c'est ça, aller vers le droit de santé pour tous. Dans le pays comme la France, ils ont la sécurité sociale et qui est en fait un système qui permet à ce que tout le monde puisse bénéficier de soins de santé de base. Dans nos pays africains, nous avions en fait une méthode, je peux appeler ça en fait une assurance familiale. Et cette assurance familiale marchait quand il y avait, lorsqu'un pays est en paix. Et donc, vous êtes, cher Roger, si vous payez, par exemple, vous en écrit rapidement en Europe, aux États-Unis, pour dire, bon, ben, apportez votre participation, tel cousin, Jacques ou Jean est malade, et vous participez. C'est grâce à vous, d'ailleurs, que l'Afrique ne connaît pas encore une catastrophe, puisque je crois que c'est que les Africains envoient en termes de participation aux soins de santé de leur famille, c'est énorme, c'est énorme. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Au lieu que ça soit ponctuel, lorsque vous avez un malade, pourquoi, par exemple, la diaspora ne peut pas constituer une assurance maladie par pays, par exemple, pour permettre à ce que vos parents qui restent au pays, qui n'ont pas du travail, qui ne sont pas assurés sur le plan médical, vous cotisez régulièrement 10 dollars et qu'à la fin, s'ils sont malades, ils peuvent bénéficier des soins sans que vous soyez obligés de payer la facture médicale en un seul moment. Et donc aujourd'hui, je crois, en Afrique, il faut beaucoup plus favoriser des mutuelles. Donc le mutuel qu'on avait, c'était des mutuelles plutôt type familial, c'est-à-dire que les parents ou la famille peuvent compter sur le membre de la famille. Mmh. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, essayer de mutualiser les personnes vivant dans un même village, dans un même quartier, ou qui sont dans une même église. Donc il faudrait voir le mécanisme. Ouais. Et je pense que c'est seulement lorsque nous pouvons arriver à créer autant de mutuelles en Afrique que nous pouvons commencer à améliorer les soins de santé de nos frères et sœurs.
Cela pourra répondre à plusieurs questions. Jacques avait une question vite fait, avant qu'on continue vite fait, parce que le temps nous fait...
Oui, très rapidement, en fait, pour revenir sur ton sujet du jour, Roger, de par vos propos très limpides tout à l'heure, docteur, on a compris l'importance, la place prépondérante que doit occuper la médecine d'urgence dans le domaine de la santé publique. On a compris également que les pouvoirs publics africains doivent s'y investir, doivent rendre à cette médecine d'urgence une priorité. Alors, mais dites-nous, que peut faire la communauté internationale? Que peut faire l'ONU à travers l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé? Très rapidement, je sais qu'on est très limité en termes de temps, mais peut-être, je ne sais pas, qu'en pensez-vous, docteur?
Je pense qu'aujourd'hui, nous comptons sur la communauté internationale, puisque tout simplement en Afrique, en fait, nous mettons nos priorités ailleurs. Et je crois que, pour moi, c'est une solution des faibles. Parce que si l'Afrique devrait se mettre debout, l'Afrique doit pouvoir organiser son système de santé. Moi, je crois que quand vous voyez toutes les richesses qui quittent l'Afrique pour l'Occident, il faudrait arriver à un moment de se dire, nous devons nous prendre en charge. Ce n'est pas l'OMS, ce n'est pas la communauté internationale, que je ne connais même pas où est-ce qu'elle se trouve, qui doit nous prendre en charge. Pourquoi nous ne pouvons pas être aujourd'hui à mesure de commencer à nous poser des questions et y apporter des réponses au niveau continental? Je crois que ce sont des questions qui nécessitent à ce que nous, Africains, de la diaspora, mais aussi des Africains intellectuels qui sont sur place de commencer à poser des vraies questions et trouver des réponses, puisque nous avons des Africains intellectuels, des Africains très intelligents et qui d'ailleurs créent même des modèles pour l'OMS. Mais on ne doit pas travailler pour les autres, c'est sans travailler pour l'Afrique. Et je crois qu'en mettant nos forces ensemble en Afrique, nous sommes capables de créer un système africain qui peut fonctionner, puisque je crois que nous dépensons déjà beaucoup d'argent, mais comme c'est dépensé de façon désordonnée, l'impact n'est pas visible.
Waouh, Roger, je dois piquer cette idée d'émission pour Washington Forum.
Mais écoute, Washington Forum, Jacques et Roger, c'est la même chose, hein, y a pas de problème. Docteur Mukwege, je rappelle que vous êtes gynécologue congolais, réputé encore une fois pour toutes vos actions humanitaires en République démocratique du Congo et où vous dirigez l'hôpital Panzi, et vous êtes beaucoup admiré, pas seulement par ces femmes que vous aidez, mais c'est le monde qui vraiment vous applaudit. Merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Docteur Denis Mukwege, et bonne nuit. On s'excuse encore une fois pour ce dérangement, il fait tard là-bas. Merci docteur, et surtout bonne nuit.
Je vous en prie, merci.
Voilà, c'était le docteur Denis Mukwege. On va maintenant respirer encore une fois avec la musique. Ici Roger Montaud, vous écoutez RM Show sur VOA Afrique. En train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique. À présent, Time, où il est temps pour l'actualité. Alors, parlons un peu de la CPI. L'heure de l'arrêt est venue pour le Congolais Jean-Pierre Bemba. La CPI, hein, la Cour pénale internationale, rend son arrêt en appel vendredi à l'encontre de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, reconnu responsable d'une vague de meurtres et de viols aussi commis par sa milice en Centrafrique. Vous l'avez sûrement vu sur notre page officielle, la VO Afrique. L'ancien riche homme d'affaires devenu chef de guerre a été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison pour des crimes de guerre commis par sa milice, le mouvement de libération du mouvement du Congo MLC, entre octobre 2002 et mars 2013. D'après le juge, l'accusé a dirigé une ample attaque contre la population civile durant laquelle des familles entières ont été prises pour cible. En 5 mois, quelques 1500 hommes du MLC ont tué, pillé et violé dans la République centrafricaine voisine où ils s'étaient rendus pour soutenir le président Ange-Félix Patassi. Jacques, je reviens encore à toi parce que c'est toi notre pro quand même des news. J'ai appris cette nouvelle, ça, c'était un peu breaking news aujourd'hui.
Oui, absolument, ça nous a donné du travail, ça nous a donné du pain sur la planche, absolument. Ouais. Évidemment, maintenant, on attend toutes les réactions, parce qu'il y a pas mal de groupes de victimes qui disent qu'ils sont très déçus par ce jugement, donc on attend d'autres
réactions qui vont sûrement suivre d'ici la semaine prochaine. Il y aura un développement. Merci beaucoup, Jacques Aristide. Et tout de suite, il y aura ses places quand même au sport. On ne doit pas laisser cette émission sans faire le sport. Le sport, c'est très important. C'est Georges Narsagnon qui sera avec nous en live dans un instant. Georges Le Narsagnon avec nous en live, en direct, il est là. Bonsoir Georges.
Salut Roger, j'espère que vous êtes grand amateur de la boxe. Si oui, demain, rendez-vous à Las Vegas où l'Américain, n'est-ce pas, Terence Crawford va donc en découdre avec l'Australien Holmes.
Oh, chef. Ça sera fort.
Demain soir.
À Las Vegas. Oui. Et sûrement pour avoir ça à la télé.
Ça va être sur la télévision et c'est la chaîne ESPN.
C'est demain soir. Plus. Qu'est-ce que tu fais demain soir chez toi? Je viens boire, je viens manger, pizza, poisson, pondou.
Oui, monsieur.
Viens demain. Pendant qu'on regarde le match.
Voilà, c'est et la grosse nouvelle aussi, à NBA ce soir. Ouais. Le quatrième match.
Oh, alors, do or die.
Do or die. LeBron James et les Cavaliers de Cleveland n'ont pas droit à l'erreur ce soir. Parce que sur 3 matchs, les Warriors de Golden State, qui sont champions NBA, alors ont remporté les 3 premiers matchs. Donc ce soir, comme tu l'as si bien dit, c'est do or die.
Do or die.
Et puis voilà, on revient. Voilà, et vous voyez, hein, je suis un peu sous perfusion parce que je venais de prendre ma deuxième tasse de café.
J'avais passé une nuit blanche.
Tout à fait. Washington est en train de danser parce que tout simplement l'équipe de Washington de hockey sur glace a gagné hier. Alors, ce qu'ils appellent ici le championnat de hockey sur la glace.
Donc les Capitals.
Les Capitals.
On applaudit pour les Capitals. Go Capitals. Go DC. Exactement. Go Capitals. Go DC. Et regarde les images sont là. Go Capitals. Number one. Breaking news.
Ça, c'est le breaking news. Et c'était
4-1. Donc, et pour dire aussi que c'est historique, c'est la première fois.
C'est la première fois après plusieurs années. Ouais. Certains parlent de 13 ans, il y en a qui parlent même de 45 ans.
Ah oui.
De décrocher le trophée après que c'est un match.
Oui. Le trophée. Exactement. Donc c'était une grande fête.
Et la première citoyenne de la ville, Madame Bowser, qui est la maire de Washington, était très contente. Et il y a même des supporters qui ont dit, mais écoutez, on en parle de titre de NBA, mais quand même, on a la coupe.
Ah oui, la coupe, on est quand même quelque chose. On pense quoi? D'ailleurs, on finit en musique et c'est Keith qui va nous balancer la musique. Mais avant qu'on écoute la musique, on va dire au revoir à Kira qui est notre
interne.
Kira, thank you so much for coming with us. You are great. We're going to miss you. Everybody say thank you to Kira.
Thank you, Kira.
Are you leaving, really?
Did you like being with us here?
Oh, of course.
Yeah? Yeah? What did you like here?
I got to meet a lot of really kind people, a lot of getting into in-depth about podcasts, learning more about voice acting, and It's just been amazing.
It's been amazing. Amazing, c'est la musique. On écoute, on danse. Lightning in a Zion, that's my vision. When the lightning strike, man, I see it from Zion. Thunder in a Zion, roll by the Zion. When the thunder clap, me say that's it from Zion. Quake in a Zion, shit by the lion. Blazing, and we are, yo. When I see the lightning flash, when the kid is on the roll. Can't be afraid, and I'm on the clean up them all. When I hear those holy sinner, when the ear goes sound, and drop the Bible, I run down these times. Yo, when I see the lightning flash, when the kid is on the roll. Can't be afraid, and I'm on the clean up them all. When I hear those holy sinner, and when them near both down at the same time, them want to be born. But no for them, not know when the earth are going to see. And they won't hear now, the Muslims are going to see it. You give them before it's too late. No corruption can go to Zion see it. The first of them real, but me say them are fear. The first of them look, let them see it. Can't come forward, but they have to find it. They want to come and say nothing, they want to be here.
Sweet and warm, yeah, you drive me crazy, yeah, super real high, defending your rights, should have been mine.
Il y a que Lionel qui m'a quitté en tout cas. Il y a que Lionel. Il est en train de souffrir de l'autre côté. Il est en train de souffrir de l'autre côté. Merci beaucoup à Rob McLean. Merci infiniment à Keith. Merci bien sûr à Tian Wang. Merci à Georges Léonard Sagnon ici. Merci beaucoup à toi, mon ami et frère. Merci à Lionel Gaïma. Jean-Louis, merci. Et on applaudit encore une fois pour Kira. Merci Kira. We love you. We're going to miss you. Stay with us. Peace, Africa.
Bye!
Sur VOA Afrique, Afrique, Afrique.